Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Je vais vous raconter une histoire comme vous n'en avez jamais entendu.
Le jour où j'ai rencontré le père de mon fils, on peut pas dire que c'était un coup de foudre. Hein. C'était un coup.
Qui est le géniteur? Tu sais pas.
Comment s'est pris une caisse de l'espace? J'étais lâché à fond, on m'aurait fait sniffer de l'euthanasie que j'aurais dit oui.
Tu vas pas me faire croire que tu es la nouvelle. Émasculée et contraception. Là.
Son père.
C'est son père. Ambigu.
Je suis pas hétéro non plus. Je suis végétaux. D'avoir une perturbation entre le metteur et le récepteur. Bonsoir, tout de suite les titres.
For the first time ever in the world, the baby was born laughing.
Eri, mismo si se quema sobre la puela de la paella.
If you put in Siberia, glagla, brrrr, moins 40, smeyotza!
Tout le monde est parti en sucette.
Je déteste la bonne humeur. De manière générale, quoi. Ça m'angoisse.
Les cantis cognent, ils gauleries. Quand il est malade, il gaulerie. Je l'ai appelé gaulerie. Gaulerie, gaulerie, alléluia.
C'est vrai qu'il nous a fait beaucoup rire. Et depuis dimanche, il nous fait beaucoup pleurer. Bruno Salomon nous a quittés. On est en tout cas très heureux de l'avoir pu le connaître, de pouvoir l'avoir accueilli dans notre émission de nombreuses fois. Bruno Salomon s'est fait connaître notamment grâce au Nous, c'est nous en 1998 avec Éric Collado, avec Manu Joukla, Éric Massot et Jean Dujardin. Et a fait les beaux jours de l'émission de Patrick Sébastien. C'est en 2000 qu'il joue son premier one-man show. N'est pas cochon d'Inde. Qui veut, suivi de Bruno Salomon au Bataclan en 2003. Il trouve la gloire évidemment avec la série Fais pas ci, fais pas ça pendant près de 10 ans, avec également des suites, notamment à la série. La série connaîtra notamment un grand moment, celui du mariage de sa belle-fille, où il avait chanté d'ailleurs un morceau. Mais Fais pas ci, fais pas ça, c'est une série qu'il aimait tellement. On avait eu l'occasion de recevoir Bruno Salomon lors de la diffusion de la saison 5 sur France 2. On l'écoute.
C'est vrai que le fil conducteur, ce serait aussi l'histoire d'amour entre notre fille, enfin moi c'est ma belle-fille dans l'histoire, Tiphaine Boulet et Christophe Lepic. En fait, qui se séparent, qui se remettent ensemble, qui se séparent. Et on va dire que c'est ce qui tient, ce qui fait la connexion entre les deux familles. Et il nous arrive une succession de rebondissements énormes, mais je vais pas vous raconter parce que c'est toujours chiant qu'on raconte, mais
Jalil Lespère et Alexandra Gentil vont avoir un rôle plus important encore dans cette saison.
Oui, oui, ils seront de plus en plus présents d'ailleurs les saisons à venir aussi. Et bah oui, parce qu'ils veulent leur indépendance, hein, et à un moment ou un autre, ils commencent à être adultes. Et non, mais il y a des trucs pas possibles où à un moment on retrouve Renaud Lepic habillé en Superman dans une poubelle. Et ça, c'est un épisode particulièrement drôle.
Dessiné de fleurs en tulle, son cœur ardent de mille bulles, elle lui a promis son âme, même si ce n'est pas la plus calme. Lui n'est pas le plus rapide, mais son amour est bien lucide. Aujourd'hui King en queue de pie, le smoking bardé de riz, il s'est collé à Tiffen comme une pâte américaine. There will be a lot of laugh, you know, with le beau Christophe. Il lui a dit oui, et elle l'a dit aussi. Ils se sont dit oui, en défiant tous les noms. Ils se sont dit oui, et ils ont bien raison. Ils ne vont plus jamais, jamais, oh non, jamais se dire non.
Il y a tellement de souvenirs qui remontent. Effectivement, on a eu l'occasion de vivre des moments inoubliables avec Bruno, et notamment au festival de Luchon, on s'était retrouvés tous les deux bloqués sur un télésiège, et on avait fait voilà une petite interview comme ça à l'arrache sur le télésiège. On avait beaucoup ri tous les deux, et voilà un petit extrait de ce que ça a pu donner juste après Bertrand Mineur, qui a été un des deux derniers réalisateurs avec Aurélien Arzoun pour le film Dans l'ombre de Marlowe, sera avec nous pour échanger et surtout parler de Bruno.
Ah, t'étais là dès le début ? Ah, c'était toi ? Mais t'étais déguisé, non ?
Oui, en lapin.
En lapin, ouais, c'est ça, et moi en cochon d'Inde. Et non, on a passé une bonne journée tout, sur les télésièges tous les deux. Là, on a mis 5 heures pour arriver en haut. Tout à l'heure, c'était sympa.
Exactement, dans l'ambiance du festival. Bon, en tout cas, t'es venu au festival de Luchon pour venir défendre la pire semaine de ma vie, la prochaine, on va dire, série comique d'M6.
Exactement. Alors, on peut dire que c'est une série parce qu'il y a 2 épisodes. Alors, c'est une série de 2 épisodes de 90 minutes. À la base, c'était un format de 26 minutes. Tu vois, les Anglais, ils font des trucs comme ça, des formats courts. Et là, on a fait la version 2x90 minutes. Donc, il y a une vraie continuité, il y a une vraie évolution, et ça part complètement en cacahuète.
C'est ça qui est bien.
C'est ça qui est bon.
Alors Bruno avait aussi tourné son dernier film pour le cinéma qui s'appelait Dans l'ombre de Marlowe. Il y a quelques années, on avait eu l'occasion de le recevoir d'ailleurs, il y a un petit peu plus d'un an. Et un film réalisé par Bertrand Mineur et Aurélien Arzoun. Bertrand est avec nous pour témoigner justement de l'engagement aussi de Bruno face à 2 jeunes réalisateurs qui réalisent leur premier film. Il n'a jamais justement pris ça, Bruno, comme on va dire décision. Au contraire, il aimait bien encourager les jeunes auteurs, les jeunes réalisateurs, les jeunes comédiens et se mettre à leur côté, Bertrand.
Oui, Bruno était quelqu'un de très très talentueux et surtout de bienveillant. Et avec Aurélien, on en est très heureux et c'est ce qui fait tout, on va dire toute sa force, c'est que il nous a fait confiance et il a su nous faire confiance et nous aider et on a travaillé en collaboration sur le projet. Et c'était quelqu'un qui était vraiment très très investi et extraordinaire et puis un talent fou, quoi.
Et qui mettait surtout une extrêmement bonne humeur sur un tournage, parce que c'est ça qu'il faut aujourd'hui garder de Bruno, c'est sa bonne humeur communicative, ses blagues, son rire, son sourire. C'est ça que je veux qu'on garde aujourd'hui.
Ah, tout le temps. Bruno toujours à rire, toujours à faire des blagues. Et là-dessus, on s'entendait très bien parce que j'aime bien ça et je souris et ça me fait rire parce que j'ai souvenir sur le tournage où on a quand même pas mal ri et on a passé de très bons moments et voilà, c'est une personne vraiment extraordinaire, toujours de bonne humeur et bienveillant, c'est important de le dire, hein, bienveillant.
Il y a un souvenir particulier justement qui ressort de ce tournage, d'un moment anthologique que vous avez vécu ensemble avec lui.
Je sais qu'il y a un plan qu'on tournait et il était impossible pour Bruno de me voir parce que on était tellement en fou rire, il fallait absolument pas qu'il me voie et moi que je le vois parce que c'était très dur de tenir parce que
il avait l'œil qui se frisait facilement.
Ah ben complètement et je me rappellerai toujours de bon là où il a dit je veux pas le voir, je veux pas te voir, je veux pas le voir. Et ils étaient obligés de m'écarter parce que, bah, parce qu'on était parti sur un fou rire et c'est très dur quand on a un fou rire de pouvoir reprendre son sérieux, mais lui, il a réussi et.
On donnerait tout aujourd'hui pour le voir encore, effectivement, et profiter de son talent, mais son œuvre reste aujourd'hui. C'est ça qui est assez extraordinaire, assez magique dans le cinéma et dans la télévision. Et voilà, si vous avez envie de profiter, en tout cas, de son dernier film pour le cinéma, ça s'appelle Dans l'ombre de Marlowe et c'est en DVD et VOD. Voilà, si vous avez envie de voir Bruno dans ses œuvres, parce que c'est ça qu'on veut garder aujourd'hui, c'est tout ce qu'il nous a apporté au niveau culturel, et tout ce qu'il a pu nous faire rire. Voilà. Donc, merci beaucoup, Bertrand, en tout cas, pour ce témoignage.
Merci à vous.
À très vite.
Merci. Au revoir.
Et on va réécouter un petit morceau de la dernière fois que Bruno Salomon est venu à notre micro. C'était en décembre 2024, à l'occasion de la diffusion On va marcher sur la lune de Fais pas ci, fais pas ça, juste après Lucia Pasaniti. Sa dernière compagne dans la série A priori, où elle avait fait binôme avec lui, eh bien, va venir nous témoigner également toute son affection pour Bruno.
Complètement culte. Franchement, je trouve que c'est... Parce qu'il y a, le jackpot, c'est-à-dire que non seulement je trouve que tous les acteurs, à part moi, hein, je parle pas de moi, mais je trouve que tous les acteurs sont vraiment incroyables, que ce soit des enfants comme les adultes. C'est pas juste une série familiale lambda avec des petites scénettes. Je trouve qu'elle a du sens dans le côté. C'est-à-dire que c'est deux familles qui ont un mode d'éducation opposé. Et on s'aperçoit qu'en fait, d'un côté, t'as les réacs, de l'autre côté, t'as les bobos. Il y en a qui marchent à la discipline et les autres qui sont plus dans la psychologie, dans les coups de leurs enfants. Et dans les deux cas, ça marche pas. Et je trouve que c'est beau ce que ça dit parce que finalement, il faut être soi. Parce que il y a eu beaucoup de séries familiales qui ont été faites et je trouve qu'il n'y a pas cette saveur-là et ce sens-là. Et les personnages sont vraiment, ils sont typés, ils sont un poil caricaturaux, mais pas tant que ça, au final.
Allez, on continue notre hommage à Bruno Salomon avec Lucia Pasaniti qui est avec nous, qui a fait équipe avec lui dans la très belle série A priori, saison 1. Et en plus, A priori revient dans cette deuxième saison. Ça sera très bientôt, hein, puisque ça arrive le 31 mars.
Tout à fait.
Une saison qui lui sera dédiée. Lucia, je suis sûr que tu as plein de souvenirs avec Bruno, de sa bonne humeur, de son œil qui frise permanent. Ça doit être un vrai bonheur pour toi de faire équipe avec lui pendant cette première saison,
oui.
D'A priori.
C'est le bonheur ultime. Bruno, c'est le meilleur partenaire que qui ce soit peut rêver avoir. En fait, c'est un grand enfant. Il a jamais grandi et du coup, on a toujours beaucoup de joie, de bonne humeur sur le plateau avec lui, même quand c'est dur, quoi qu'il arrive. Tout passe par l'humour, toujours. Donc c'est une chance assez extraordinaire, ouais. C'était formidable. Je l'aime de tout mon cœur.
Alors c'est vrai que beaucoup de monde savait, hein, qu'il était malade dans le métier, c'est pour ça que Florent Manaudou assure le tournage, mais il y a quand même une petite apparition, on en parlera puisque lundi prochain tu seras avec nous aussi, mais il y aura une petite apparition au moins en vocal pour expliquer un peu aussi le départ de son personnage, le départ de Victor, et c'est très très beau ce clin d'œil, il résonne encore plus aujourd'hui.
Tout à fait, bah déjà quand on l'a tourné c'était très dur à faire. En réalité, quand on l'a tourné, c'était un peu... Mais c'était agréable parce que ça nous permettait d'avoir l'impression qu'il était un petit peu avec nous et de jouer quand même avec lui d'une certaine manière. Et voilà, ça va résonner encore plus fort aujourd'hui. Moi, là, on a l'avant-première le 23 mars. Je vous cache pas que je pense déjà que je vais pleurer à ce moment-là, quoi.
Ouais, bah oui, ce soir en plus. Écoute, on va pas te prendre beaucoup de temps. Juste, est-ce que t'as un souvenir à nous raconter de tournage avec lui?
J'en ai tellement. Un des fou rire qu'on a eu et qui était merveilleux. Bruno adore les animaux. Il aime vraiment beaucoup, beaucoup les animaux. D'ailleurs, il imitait très bien les animaux. Et il y a un jour, on tournait, on était en extérieur au bord de l'étang, un très grand étang qui ressemble plus à la mer qu'à un étang comme il y en a dans le sud. Et il y avait un chien qui s'est mis à jouer dans l'eau et qui sautait, mais on n'avait jamais vu ça. Et on a eu une espèce de fou rire, mais de fou rire. Et à chaque fois que Bruno réessayait de se remettre, le chien recommençait le truc. Et on a vraiment eu, ça a duré, je pense, une bonne heure, ce fou rire. Et c'est vrai que c'est un moment où j'ai son visage vraiment ancré en moi, ce moment-là, comme il riait, comme il le regardait. C'était un moment assez merveilleux.
Ouais, il avait l'œil très rieur, en tout cas, et c'est vrai que son œuvre aujourd'hui va traverser, j'en suis sûr, les générations, parce qu'il y a tellement de choses entre la scène, les séries, le cinéma. Voilà, en tout cas, c'est sûr, mon Bruno, on t'oubliera jamais. Merci infiniment, Lucia. On se retrouve lundi prochain, on parlera de cette nouvelle saison, évidemment, qui nous attend. A priori, il fait son retour très bientôt sur France 3. Merci, Lucia, lundi prochain.
Merci à vous, merci.
Voilà, c'était notre page spéciale hommage à Bruno Salomon, qu'on a été très heureux en tout cas de connaître et de côtoyer très régulièrement et d'accueillir dans notre émission. On va passer à la suite de notre émission avec, dans quelques instants, Enya Barou qui sera avec nous pour parler de la série Fleur Bleue. On va avoir également le grand plaisir aujourd'hui de recevoir notamment l'équipe du film Romane Turlure et Jeanne Bourneau pour Apparence Soussou. Des familles nombreuses viennent nous rejoindre. Mélissa Thorio et Guillaume Estivi sont avec nous également pour le dilemme d'Hippocrate. Alors à tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Alors à ce qui paraît c'est fini, à ce qui paraît c'est moins joli, à ce qui paraît je tombe dans l'oubli. Tu m'as mené en bateau, je me retrouve solo, sous l'eau. Je tourne en rond, j'ai peur de demain, plus rien n'est beau, la poule au vent tous les matins. J'ai plus ce que j'aime, j'ai plus ce que je porte, tu dis que je suis folle. Je sais pas si je t'aime, je sais pas si je tourne bien. Je me rends pas belle au quotidien. Tu prends mes rêves, tu passes de tout à rien. Et moi je sais pas si tu te souviens. J'avais la dalle, j'avais du cœur, je chantais seule durant des heures. J'avais pas besoin que quelqu'un me rappelle combien c'est dur. J'avais pas de mal avec mes sœurs, aucun battle, pas de jeu d'acteur. Puis tu t'imposes avec ces lois qui nous murmurent. Problème, problème, j'ai un problème, problème. Dans ma tête ça tourne pas. Problème, problème, j'ai un problème, problème. Tu m'as trop fait tourner en rond. Problème, problème, j'ai un problème, problème. Dans ma tête ça tourne pas. Problème, problème, j'ai un problème, problème. T'as tout compris, je veux plus qu'on se prenne la main. La tienne me tirait tellement loin. Mais tellement loin, ça veut pas dire que c'est bien. Surtout quand on se reconnaît moins. Je voudrais pleurer, je voudrais courir, nager loin de tes eaux usées. Je vais pas mentir, sans toi aussi je peux m'amuser. Je vais m'inventer, je vais m'en sortir, faire de mon mieux. D'ailleurs je sais que tu finiras par dire que c'est moi qui ai changé. Problème, problème, j'ai un problème, problème. Dans ma tête ça tourne pas. Problème, problème, j'ai un problème, problème. Tu m'as trop fait tourner en rond. Problème, problème, j'ai un problème, problème. Dans ma tête ça tourne pas. Problème, problème, j'ai un problème, problème. Tu viens, tu pars, tu me jettes, tu me gardes, je te gère. Tu viens, tu pars, tu me jettes. Problème, problème, t'as un problème, problème. Dans ta tête ça tourne pas rond. Problème, problème, t'as un problème, problème. Tu m'as trop fait tourner en rond. Problème, problème, t'as un problème, problème. Dans ta tête ça tourne pas rond. Problème, problème, t'as un problème, problème. Tu viens, tu pars, tu me jettes, tu me gardes, je te gêne. Tu viens, tu pars, tu me jettes.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré au dilemme d'Hippocrate, un documentaire qui sera diffusé mercredi à 20h40 sur LCP, produit par Mélissa Thorio, qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Mélissa.
Bonjour.
Et qui est réalisé par Guillaume Estivi, qui est avec nous aussi. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, moi, j'ai découvert quelque chose, et ça, j'aime bien avec Mélissa. Tous les documentaires qu'elle produit, c'est qu'on découvre souvent des choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne connaît pas. Et là, on plonge dans un hôpital à Saint-Nazaire avec un philosophe qui dirige un comité d'éthique. Est-ce qu'on pourrait déjà expliquer aux auditeurs ce qu'est qu'un comité d'éthique dans un hôpital ? Guillaume.
Donc un comité d'éthique, c'est à peu près une vingtaine de personnes, donc des soignants et des non-soignants. Il y a aussi des représentants de la société civile qui peuvent être présents. Et c'est un comité qui se réunit quand un soignant se pose une question, quand il y a une situation qui a l'air assez inextricable parce que la demande peut-être est étonnante ou en tout cas qu'il y a un problème sur le soin à donner. Il faut que ces personnes-là se réunissent et débattent. Donc il y a les pour, les contre, il y a une espèce de... Voilà, de débat qui se met en place. Et l'idée, c'est qu'à la fin, alors il y a un système de vote, on va dire, et pour savoir si on est pour ou contre la décision à donner à la prise en charge du patient.
Alors ce qu'on découvre dans ce film aussi, c'est que c'est plus compliqué que ça, c'est plus complexe que ça. Il n'y a pas forcément le pour, le contre, c'est oui, c'est non. Il peut y avoir aussi des solutions alternatives qui peuvent être proposées dans le film à travers justement ces médecins. Qu'est-ce qui a donné en tout cas envie, le déclic ? Est-ce qu'il y a une rencontre particulière qui a fait que vous avez avez eu envie de vous immerger dans ce domaine-là?
Bah, moi, la première rencontre, je dirais, c'est la rencontre avec mon père. Mon père est médecin de campagne. Il était, puisqu'il est à la retraite. J'ai toujours un peu baigné dans cet univers, mais jamais du côté, justement, du doute. Parce que je sais pas si c'est parce que quand on est médecin, on n'ose pas exprimer un doute. Ça peut être comme, perçu comme une faiblesse. Donc, il me l'a juste exprimé tout ça à la retraite. Et du coup, c'est resté dans un coin de ma tête pendant assez longtemps, pendant à peu près une dizaine d'années. Je voulais faire quelque chose sur le doute du médecin. Et c'est la lecture d'un article sur, justement, ce comité d'éthique à Saint-Nazaire, qui était dirigé par un philosophe. Et je trouvais que c'était une approche intéressante, parce que du coup, on n'allait pas être que entre soignants. On allait avoir aussi un regard extérieur, celui du philosophe, qui parfois, justement, pose des questions naïves, innocentes, un peu comme nous, finalement, spectateurs, on allait pouvoir faire. Et donc, c'était une super porte d'entrée pour moi pour raconter ce que c'est que l'éthique clinique.
Mélissa, qu'est-ce qui a poussé à accompagner Guillaume ?
Alors, c'est pas le premier film que je produis de Guillaume, dont j'aime vraiment l'acuité du regard, la finesse d'analyse, la poésie aussi. Vraiment, j'ai toujours un plaisir immense à, oui, valoriser son travail et son regard, en fait, de cinéaste, de documentariste. Là, on était vraiment sur tout ce qui m'anime en ayant monté 416, c'est-à-dire l'apologie du doute. Tous mes films, tous ceux qu'on initie, sont réellement explorer les marges, explorer la nuance et mettre en avant le doute dont on parle peu, et Guillaume parlait de faille ou d'être perçu comme une faiblesse dans beaucoup de corps de métier, pas seulement la médecine, et ça me semblait à la fois invraisemblable, mais je connais sa finesse et la confiance qui peut aussi résider et provoquer, et donc arriver à assister à ces commissions réellement, enfin pour moi ça c'était de l'ordre un peu de l'impossible, et en même temps tu l'as fait, c'est-à-dire d'assister à la fois au doute, à la fois au désaccord, à la fois on a en main la vie de quelqu'un dont il est question de son avenir, il est question vraiment d'un choix de vie. Donc ça me semblait évidemment précieux et l'objet d'un documentaire à accompagner quand on est parti ensemble sur ce début d'enquête, en fait, on va dire. Et puis ce philosophe, je sais que tu sais trouver des personnages, et Guillaume Durand est une belle rencontre, et je comprends ce que Guillaume aussi a aimé de lui, c'est-à-dire que la philosophie, c'est vraiment l'essence aussi de l'éthique au sens large. Donc à chaque fois, on est en effet avec eux pour essayer de réfléchir à... Il s'agit pas seulement de vie ou de mort, mais de comment on s'accompagne, de comment on reste dans une forme de dignité les uns avec les autres, quoi, dans les choix à prendre.
C'est très complexe. On commence effectivement par cette jeune fille qui a un gros problème. Elle souffre de règles très douloureuses avec une endométriose sévère diagnostiquée. Et elle demande une hystérectomie directement à son chirurgien qui, du coup, lui, va devoir consulter ce comité d'éthique. Peut-on effectivement faire ce genre de choses de cette façon-là, comme ça ? Parce que ça engage énormément de choses derrière. Et c'est aussi cette réflexion qui est amenée par rapport à des décisions qu'un humain peut prendre des fois brutal dans des circonstances, et toute cette nuance qui est apportée effectivement par le philosophe qui du coup va la recevoir avec sa maman, et on dira pas évidemment la décision du comité d'éthique, mais on suit tout le comité en tout cas à travers le parcours de cette jeune fille au début.
Oui, c'est ça,
bien résumé.
C'est très bien résumé ce premier cas, et je trouvais justement ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que parce que le philosophe justement a du temps, il a le temps d'aller à la rencontre de cette jeune fille, ce que parfois les soignants n'ont pas. Il a pas de blouse blanche aussi, donc c'est vrai qu'elles ont, peut-être que les patients, cette patiente en l'occurrence a plus tendance à se livrer qu'un soignant avec sa blouse blanche où il est plus sur une histoire de résultats et de soins exacts qu'il faut prodiguer. Là, voilà, le philosophe, on parle, on discute. Et du coup, ça a fait émerger une parole que peut-être les soignants n'avaient pas pu voir ou n'avaient pas eu le temps de percevoir, qui explique en fait, en partie, sa demande, qui est au-delà de l'endométriose. Donc voilà, là je me suis dit, c'est vraiment un cas où on peut vraiment percevoir l'intérêt que peut avoir déjà le temps dans un hôpital, et du coup le philosophe permet ce temps-là.
Elle livre un témoignage très émouvant. D'ailleurs, cette jeune fille, c'est facile de les convaincre d'arriver à acquérir leur confiance. J'imagine un peu la difficulté peut-être de ce parcours, aussi bien en tant que productrice que réalisateur.
Ouais, ça a été l'immense difficulté, et je pense que c'est l'immense plus-value du film. C'est de voir deux jeunes filles qui t'ont fait confiance, qui font partie de ce documentaire et qui donnent en effet toute l'humanité et le sens aussi aux décisions qui sont prises. Donc cette jeune fille ne souffre pas seulement d'endométriose, puisque c'est évidemment une conséquence et une douleur qu'il faut aujourd'hui prendre en compte, mais on comprend aussi qu'il y a tout un passif, et notamment des violences subies. C'est important de le préciser parce que c'est aussi beaucoup de cas aujourd'hui qui se présentent peut-être dans les hôpitaux, qui sont des cas nouveaux, qu'on n'entendait pas il y a encore une vingtaine d'années, parler d'un trauma aussi et avoir envie d'en finir, et donc demander à la médecine de l'aide pour réussir à vivre et dépasser quelque chose de traumatique. Ça, je trouve que c'est très intéressant d'avoir en effet ces deux jeunes filles qui s'expriment devant la caméra de Guillaume.
Oui, c'est un peu ce qu'ils m'ont dit tous les soignants et puis les membres du comité, c'est que il y a une évolution vraiment des cas, en tout cas pour lesquels on fait appel à eux. Il y a beaucoup effectivement de violences sur les femmes, violences sexuelles, d'agressions, et aussi beaucoup de cas psychiatriques qui n'avaient pas autant. Et là, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que vu que l'éthique, c'est aussi en priorité de regarder si la personne est autonome en termes de décision. C'est vrai qu'un cas psychiatrique, il va falloir essayer de savoir si cette personne a une autonomie décisionnelle libre et éclairée.
Guillaume, quand on filme justement ce comité d'éthique qui débat, qui dans sa tête, on se donne un avis ou pas ?
Alors dans sa tête, on donne un avis complètement. Bien sûr, j'étais vraiment avec eux. J'ai eu l'impression, parce qu'on a tourné quand même, c'est un tournage au long cours où je filmais vraiment les réunions en huis clos, au plus près des soignants. Et c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de réfléchir à ce que nous. Je pense que c'est un peu la force du film aussi, c'est que
chacun peut s'identifier facilement.
Oui. Même si les cas nous concernent pas forcément. Je me souviens d'un cas justement qui est dans le film aussi sur une pose d'une sonde nasogastrique pour alimenter une jeune fille anorexique. Qui ne veut pas être alimenté.
Qui pèse 25 kilos, enfin c'est waouh, c'est terrifiant.
On la voit dans le film. Il y a la réunion avec le philosophe et c'est vrai que elle, dès le début, moi je me suis dit bien sûr qu'il faut lui poser cette sonde si elle va faire un malaise cardiaque. Et en fait, à mesure des réunions, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. C'est pas si facile puisqu'elle a exprimé le fait qu'elle ne voulait pas. Après rentre en jeu la loi aussi puisque la loi indique que le corps est inviolable sauf si la vie est en danger. Est-ce que sa vie était en danger à ce moment-là? Enfin, il y a vraiment, c'est ça aussi qui m'a surpris dans ce film, c'est qu'il y a énormément de questions éthiques et philosophiques qui naissent d'une situation qui me paraissait plus ou moins banale. Et alors qu'en fait, il faut s'interroger sur tout et il faut encore une fois du temps.
Vous allez voir qu'en voyant le dilemme d'Hippocrate, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. Il peut y avoir des justes mesures et c'est ça qui est appréciable de découvrir effectivement une humanité derrière ce comité d'éthique. Et bravo parce que je trouve ça hyper intéressant de découvrir effectivement ce qui peut se tramer dans des cas extrêmes comme cela. On termine par vos projets à tous les deux, Mélissa, en tant que productrice.
Alors vous pouvez retrouver un documentaire que je viens de produire pour Canal+, qu'on retrouve sur MyCanal, et qui s'appelle « Tu seras pro, mon fils », réalisé par Laure Grandjean. Et c'est un film hyper intéressant sur les enfants qui portent un peu aussi le poids de la réussite, notamment dans le football, et on traite de ça sur Canal+, donc MyCanal.
Très bien. Guillaume ?
De mon côté, je poursuis la préparation de films avec Mélissa et 416, bien sûr. Alors là, on est sur la solitude des personnes âgées.
Vaste sujet aussi, là, c'est pas tout noir ni tout blanc.
Voilà, vaste sujet.
On a oublié en banlieue, parce qu'on parle beaucoup de jeunesse, et c'est vraiment l'angle de Guillaume. On parle de la jeunesse, vraiment, que ce soit dans les cités, les barres d'immeubles, etc., et moins des personnes âgées. Qui souvent sont vraiment bloquées, immobilisées, oubliées, et qui vivent chez elles de façon très solitaire et isolée. Donc c'est un peu l'éclairage qu'on a envie de mener ensemble.
Oui, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est la moitié des personnes qui habitent en QPV, donc en quartier prioritaire de la ville, sont des personnes âgées, sont des plus de 60 ans. Et on se rend compte que 80% par exemple vivent sous le seuil de pauvreté. Enfin, il y a des chiffres assez fous qu'a sorti un rapport des Petits Frères des Pauvres. Et on s'est dit qu'il fallait derrière ces chiffres mettre un peu des visages et des vies derrière tout ça.
Bon, on a hâte de vous accueillir à nouveau pour ce prochain film. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Le dilemme d'Hippocrate, c'est mercredi, c'est à 20h40, c'est sur LCP. Et on va tout de suite écouter la bande-annonce. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Il faisait 28 kilos.
Là, c'est 25 kilos.
25 kilos.
Là, le patient, il m'a dit, si je fais un malaise chez moi, je veux pas qu'on me réanime. Mais en même temps, c'est bizarre parce que ça veut dire qu'on accepte qu'il décide de mourir et qu'on se dit, il a le droit, je sais pas, ça c'est quelque chose qui m'interpelle.
Il y a un moment donné, les traitements, ils doivent savoir aussi s'arrêter, être arrêtés ou limités.
Est-ce que ça remet pas en cause le serment qu'on a pris le jour où on est devenu médecin?
Rappelez-vous, elle a 26 ans, elle demande une contraception définitive.
Les patientes, quand elles ont des antécédents d'agression sexuelle, elles sont 7 fois plus exposées à une endométriose invalidante.
Son histoire d'agression sexuelle derrière tout ça, je suis pas sûre de lui enlever son utérus. Ça, pour elle, c'est sa solution, mais je suis pas sûre que ça soit vraiment le cas.
Elle n'est pas à son premier séjour en réanimation aussi, puisqu'elle a fait des tentatives de suicide grave. Voilà. Quand est-ce qu'on dit qu'une maladie psychiatrique, on est en bout de ce qu'on peut proposer à quelqu'un?
Je rejoins pas du tout ce qui vient d'être dit. Moi, je trouve ça totalement immoral.
Et notre coup de cœur télé consacré à la mini-série Apparence, déjà en ligne sur France.tv, qui débarque sur France 2. Une série produite par Roman Turlure, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Roman.
Bonjour, merci de nous recevoir. Et je suis producteur avec Iris Bucher.
Exactement, de chez Quad, qu'on embrasse aussi Iris, qu'on a régulièrement à notre micro. Et puis, il n'est pas venu seul, Roman, aujourd'hui. Il nous a fait un beau cadeau, puisque Jeanne Bourneau est notre invitée aussi aujourd'hui. Bonjour, Jeanne.
Bonjour, je suis ravie d'être là.
C'est la première fois en vrai. C'était eu au téléphone pour le négociateur. En tout cas, c'est un grand plaisir de se voir en vrai, effectivement. Alors, apparence, on va déjà parler un petit peu de l'idée de base. Roman, comment est venue cette idée? Parce que c'est vrai que un plongeon dans le monde de la chirurgie esthétique, des influenceurs, etc., c'est plutôt une bonne idée. C'est surtout aussi très d'époque aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est vraiment une idée originale qui a commencé juste par une envie qui était de travailler sur une chroniqueuse judiciaire. Iris avait envie de travailler sur un personnage de femme chroniqueuse judiciaire et on a contacté Isabelle Sébastien, scénariste qui a écrit beaucoup de polars et avec qui on avait déjà travaillé, qui a dit, je vais réfléchir. Et elle a proposé d'ancrer ça dans l'univers de la chirurgie esthétique qu'elle avait envie de traiter. Et ça avait jamais été fait en France dans une série. Et on a dit, banco. Et puis petit à petit, ça s'est construit. On avait des références sur des séries. Et on est arrivé à 3 portraits de femmes dans l'univers de la chirurgie esthétique sous l'angle du genre polar. Et voilà comment c'est né. Et petit à petit, on s'est dit que c'était tout de suite une mini-série en 4 épisodes par rapport au sujet qu'on voulait traiter, par rapport à ces 3 points de vue féminins. Et voilà, on a commencé à travailler. Elle a écrit surtout, c'est Isabelle qui a beaucoup travaillé. Et voilà comment c'est né. Et puis évidemment, France Télévisions qui nous a suivis tout de suite quand on leur a proposé polar thriller dans l'univers de la chirurgie esthétique.
On embrasse Isabelle Sébastien d'ailleurs, qu'on connaît bien et qui nous écoute de temps en temps.
Bah, et j'ajoute qu'évidemment, ce qui nous a énormément plu dans le projet, c'était d'ancrer une vraie question sociétale ultra contemporaine qui est la question de la beauté, la question de la chirurgie esthétique sous l'angle du polar avec l'aspect très ludique du polar. Et on a vraiment voulu que ce soit pas, et pardon pour le jeu de mots, mais cosmétique cette manière de traiter, qu'on interroge vraiment la beauté dans notre société, les critères de beauté, les diktats et les pressions aussi qu'on se met à soi-même, puisque l'héroïne qui est défigurée au début de la série est une jeune femme qui a voulu ressembler à toutes les influenceuses qu'elle suit et qui en a subi des conséquences malheureuses. Voilà.
Dévastatrice, on pourrait même dire. Alors on va planter un peu le décor quand même. C'est le docteur Belmont, chirurgien esthétique, qui est retrouvé assassiné dans une mise en scène un peu particulière que vous verrez dans le film. Pour la capitaine Santoni, qui est interprétée par Léonie Simaga, ce n'est pas un total étranger, puisque en fait c'est un chirurgien qui l'a opéré quelques années plus tôt, mais évidemment il y a très très vite une suspecte qui se détache. C'est une jeune fille qui a été opérée par ce chirurgien et qui a été défigurée. Puis rapidement on va découvrir que autour de ce chirurgien il y a tout un monde, dont Ambre par exemple, hein, dans cette clinique où Ambre est associée avec ce chirurgien qui a été assassiné.
Oui, Ambre fait partie des 3 médecins qui ont fondé cette clinique ensemble, qui sont des vieux copains de l'école de médecine et dont le rêve était de monter une clinique ensemble. Donc effectivement, copain, voir un peu plus, mais ça vous le découvrirez.
Et ça, on le découvrira, évidemment. Qu'est-ce qui vous a plu, Jeanne, dans ce projet?
Eh ben moi, ce qui m'a plu, c'est que je trouve que la galerie de personnages est intéressante dans le sens où chacun de ces personnages porte un regard sur la chirurgie esthétique très différent. On a plusieurs points de vue. On a le point de vue, comme on l'a dit, de Léonie Simaga, qui, elle, a eu une reconstruction du visage. Bon, elle a été forcée, en fait, de recourir à la chirurgie esthétique, ce qui lui pose un problème parce qu'elle a du mal à se reconnaître, à reconnaître son propre visage. On a le point de vue d'Hélène de Fougerolles, qui est une femme très nature, qui est d'ailleurs très peu maquillée, qui est bien dans ses baskets, qui est une femme libre, une journaliste qui n'a jamais eu recours à la chirurgie esthétique et qui découvre ce monde en suivant cette enquête.
Qui va la fasciner d'ailleurs.
Et qui va la fasciner, absolument. On a le point de vue des médecins dont je fais partie, pourquoi ils sont dans ce métier, pourquoi ils ont fait ça, et puis toutes les lignes qu'ils peuvent franchir aussi, ça vous le découvrirez. Et puis on a le point de vue, comme Roman l'a dit, de cette jeune femme qui voudrait être plus jolie pour peut-être faire de la télé-réalité, qui voudrait peut-être plus coller à son image, l'image en tout cas qu'elle aimerait, qu'elle aimerait montrer d'elle, et au lieu de l'embellir, ça va la défigurer, Mais je trouve que tous ces regards et ces rapports à la chirurgie esthétique sont très bien traités et intéressants.
Comment on pourrait la définir, Ambre? Moi, il y a un premier mot qui me vient tout de suite, c'est ambigu.
Ah oui. Ah bah alors elle, pour le coup, les apparences, elle sait ce que c'est. Oui, c'est un personnage qui est très fort, qui est en apparence très fort, et qui en réalité est brisé à l'intérieur.
Et on va découvrir plein de choses, quels secrets elle garde précieusement, évidemment. Et vous allez découvrir au fur et à mesure de ces 4 épisodes, effectivement, qu'il faut se méfier des apparences. On va écouter tout de suite la bande-annonce. Et Apparence est déjà en ligne sur France.tv, débarque sur France 2. Et on revient juste après avec notre producteur Roman Turlure et Jeanne Bourneau. À tout de suite.
La victime est le docteur Mathieu Belmont, chirurgien esthétique. C'est le chirurgien qui t'a réparé le visage.
Jessica Valois. Il y a un mois de ça, son intervention a mal tourné. Elle a engagé une procédure judiciaire contre Mathieu.
Vous pensez qu'elle aurait pu passer à l'acte? Qui d'autre? Une rivalité entre confrères?
Ils sont au courant, tes collègues, que tu couches avec la victime?
Pourquoi tu m'as caché que tu continues à le voir?
Je suis pas obligée de te raconter toute ma vie, non?
Bah, vu les circonstances, un peu quand même.
Et d'après vous, j'aurais tué Mathieu à cause de ce rendez-vous avec sa femme?
Gabriel Pasquier, journaliste et investigateur. Je me suis dit direct que vous étiez à mon côté.
Tu crois qu'elle est coupable?
Je sais pas. Un manque de repères.
T'arrêtes de le filmer! Dégage!
On pense que vous êtes resté à Bordeaux pour tuer le docteur Belmont avec la complicité de votre fille.
Pour le numéro
que
vous m'avez demandé, il a borné dans la rue de Belmont le soir du meurtre. C'est la capitaine Santoni.
Allez, on revient pour notre spécial apparence. Romane Turlure et Jeanne Bourneau sont nos invités aujourd'hui. C'est vrai que Romane, méfiez-vous des apparences. C'est vrai que chaque personnage, on a l'impression des fois, dit pas tout tout de suite. Il y a plein de secrets qui se dévoilent au fur et à mesure. Distillé.
Oui, je pense que c'était l'objectif. Donc si vous l'avez ressenti comme ça, c'est bien. C'est que on a réussi, que la scénariste a réussi et la réalisatrice Émilie Grandperret qui a fait un très beau travail à partir de ces scénarios. Oui, bah, ce sont des personnages à plusieurs facettes parce qu'on parle de chirurgie esthétique, on parle d'apparence, mais au fond on parle d'identité aussi puisque ça touche évidemment à des identités profondes, à des problématiques, à des failles de personnages. Jeanne l'a dit sur son personnage d'Ambre qui a l'air d'être magnifique dans son physique parfait, dans sa maison parfaite, dans son métier très successful et en fait voilà, chacun cache des failles et des souffrances. Et je pense que c'est aussi ce qu'on raconte à travers tous ces personnages, aussi le personnage de la capitaine jouée par Léonie Simaga. Je veux dire, il y a une faille très profonde derrière l'agression qu'elle a subie, la défiguration, la reconstruction et toute son histoire d'amour qui s'en est trouvée impactée. D'ailleurs, c'est assez joli ce qui se passe avec l'homme avec qui elle partage sa vie, qui depuis ne la voit plus telle qu'elle était. Donc je pense que derrière ses apparences, la tagline c'est « à travers les regards », à travers ces regards-là, on découvre plus en profondeur des personnages et leur psychologie. Pour finir sur votre question, c'est évident qu'on est dans du polar, donc on veut jouer aussi avec le téléspectateur et créer de la suspicion sur un certain nombre de personnages avant de savoir qui est le meurtrier.
Jeanne, est-ce qu'il y a eu possibilité de rencontrer peut-être des chirurgiens esthétiques, de pouvoir discuter, d'échanger avec eux avant le tournage ou pas?
Absolument. Alors moi j'adore découvrir des univers comme ça quand pour préparer un rôle. Je trouve que c'est aussi le côté très très ludique de ce métier et très intéressant et fascinant et passionnant, c'est de pouvoir rentrer dans des univers dans lesquels on n'aurait pas forcément accès. Et j'ai passé une journée dans le cabinet d'une médecin esthétique, donc comme Ambre Stépagnan, et je l'ai observée pendant une journée, observée ses gestes, observée son rapport à ses clientes, sa manière de parler. C'est assez fascinant d'ailleurs. Alors d'un point de vue purement technique, c'était un peu répétitif parce que c'est de la piqûre toute la journée, piqûre sur piqûre sur piqûre. Mais le rapport humain avec chacune de ses clientes, qu'elle connaissait par cœur, et comment va votre maman, et comment voilà, c'était assez impressionnant de voir les liens qu'elle développait avec ses patientes. Voilà, oui, j'ai appris plein de choses. Ça m'a servi pour Ambre Stépagnan.
Moi je peux vous dire que aussi sur cet aspect un peu réel, on a tourné dans une vraie clinique de chirurgie esthétique à Bordeaux qui s'appelle la clinique du visage, et que le chirurgien, quand on a fait les repérages, le chirurgien qu'on est allé rencontrer, en fait ce sont des amis de fac qui ont monté ensemble, qui a à peu près la tranche d'âge des comédiens qui ont joué nos chirurgiens et notre dermatologue. Et c'était amusant parce que déjà il nous a conseillé, il a lu le scénario, et on s'est assuré aussi que tout ce qu'on écrivait n'était pas farfelu, même si on est passé dans la fiction, mais qu'on avait et le studio photo dans lequel on a, c'est tout ça, on s'est inspiré de ce qu'ils faisaient, on a utilisé aussi leur matériel, et puis on a eu un conseiller technique un peu sur place qui vérifiait que les gestes qu'on faisait étaient pas, enfin même si on n'a pas eu des tonnes d'opérations etc, mais je veux dire en tout cas on était bien dans le vrai, parce qu'il s'agit pas non plus de raconter n'importe quoi. Et puis le décor était très beau. C'était un vrai décor, c'était leur bébé, et c'est vrai que derrière tout ça, parce que la chirurgie esthétique, c'est quand même un domaine particulier dans l'univers de la médecine, surtout moins la chirurgie réparatrice, mais la chirurgie esthétique, ça véhicule plein de fantasmes, et sur à la fois les personnes qui le font, les médecins, et en fait, il y a beaucoup d'humains derrière tout ça. Enfin, je veux dire, c'est chouette aussi de passer de l'autre côté du miroir. Ce sont des êtres humains avec qui ne sont pas des machines, quoi.
C'est vrai que si c'est un chirurgien, à la base, c'est un homme qui est au cœur de cette histoire à travers son assassinat. C'est aussi beaucoup une série de femmes à travers ses portraits, que ça soit avec Ambre, avec celui d'Hélène de Fougerolles, la journaliste, ou encore de l'enquêtrice Léonie Simaga. C'est vraiment un parcours un peu croisé, ou de la victime défigurée, cette jeune comédienne que j'aimerais bien qu'on cite aussi, parce que je la trouve très très émouvante aussi.
Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment beaucoup de portraits de femmes. On peut dire que les hommes sont un peu en retrait dans cette série, et c'est bien, parce que je pense que ça s'y prêtait. Et Oui, Léa Lévian est une jeune comédienne, donc qui incarne Jessica Valoir, qui est en partie défigurée, qui a une partie du visage nécrosé suite à l'opération qui a mal tourné, on va le dire.
Qui va être un peu de la suspecte idéale au départ, et on va s'apercevoir que c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Oui, suspecte idéale, Jeanne en a très bien parlé, qui a des failles en elle qui font qu'elle essaye d'atteindre un idéal de beauté qui est pas forcément ce qu'elle est profondément, et qui va en subir les conséquences à la fois psychologiques et physiques. C'est une super comédienne qui porte un personnage quand même très lourd en termes de backstory et de ce qui lui arrive dans la série et de ce qu'elle doit affronter, et qui va nouer ce qu'on trouvait hyper intéressant, que nous a proposé Isabelle Sébastien, la scénariste, c'est la relation assez complexe, ambiguë, qu'elle noue avec le personnage de journaliste d'investigation qui est incarné par Hélène de Fougerolles, où le personnage d'Hélène va se prendre d'affection pour cette jeune femme qui, sous certains aspects, ressemble à ce qu'elle a pu traverser à un moment dans sa vie de questionnement psychologique. Et c'est vrai que c'est joli la relation qui se noue entre elles et qui devient une sorte de conflit d'intérêt dans l'enquête que mène Hélène de Fougerolles.
Jeanne, est-ce qu'il y a un souvenir particulier qui restera pour le personnage d'Ambre, par exemple?
Il y a une scène en particulier où le médecin, donc leur collègue, vient d'être tué, et le docteur Belmont et Ambre, pour se détendre, se fait des piqûres sur le visage. Voilà, c'est sa petite manière de se détendre, elle. Et ça m'a quand même beaucoup amusé à faire. Le personnage de Nicolas Cazalet arrive pour voir comment elle va. Elle est devant son miroir, en train de se piquer entre les deux sourcils. Et il dit, qu'est-ce que tu fous? Elle dit, ça me détend.
C'est le cas de le dire.
Ça, oui, voilà, dans tous les sens du terme, ça la détend.
Bon, Le Négociateur, ça continue?
Non, Le Négociateur est terminé. Il n'y aura pas de saison 3, voilà.
Il y a d'autres projets qui arrivent ?
Il y a d'autres projets qui arrivent, oui. Je ne sais pas si vous avez vu La Brigade Fluviale. On a tourné un épisode, 90 minutes, en septembre, et on en tourne deux nouveaux.
Réalisé par Bénédicte Delmas, si je me souviens bien.
Absolument. Les deux premiers ont été réalisés par Bénédicte Delmas. Celui qu'on a tourné en septembre, par Nicolas Guichetot. On en tourne deux nouveaux, avec deux nouveaux Bénédicte Delmas.
Super. Une belle collection, en tout cas, qu'on peut découvrir le samedi sur France 3, que vous découvrez bientôt, en tout cas pour la suite. Roman.
Rajouter deux petits mots, parce que j'ai dit que c'était une série très féminine, et j'ai quand même envie de citer mes deux camarades qui jouent deux personnages intéressants, qui est ton collègue Nicolas Cazalet, qui joue le personnage de Stan, qui est un personnage qui est le personnage quand même le plus sulfureux de cette clinique, et qui a des pratiques pas très orthodoxes, qui sont intéressantes et qui sont très avérées chez certains chirurgiens. Ça, je vais pas tout dévoiler, mais c'est un personnage qui est très intéressant, qui emmène la série assez loin dans ce qu'elle raconte sur l'univers des médecins chirurgiens esthétiques. Et le personnage de Vincent Hennen, dont on n'a pas du tout parlé, qui est le collègue de Léonie Simaga, et qui est un personnage qui va se retrouver quand même dans un conflit par rapport à cette flic qui enquête sur la mort du médecin qu'il a opéré, et qui est, je trouve, aussi un très beau personnage masculin, même si les femmes sont à l'honneur dans cette série. Voilà.
Et on terminera par les projets de Quad, Roman.
Les projets de Quad, on vient de rentrer, on est en post-production d'un Meurtre à Angoulême, qui met à l'honneur la BD quand même, parce qu'on a de la BD intégrée dans la série. C'est le moment, oui, on verra, mais en tout cas on l'a créé, la BD, et on vient de démarrer un tournage à Marseille qui est un 90 minutes, qui peut-être deviendra une série si ça rencontre un succès, qui est dans l'univers des assistants sociaux. Les héros sont des assistants sociaux dans le sud de la France, dans un petit centre intercommunal d'action sociale. Voilà, qui est de la comédie dramatique.
Il n'y a pas une grosse série aussi chez Quad pour TF1 bientôt ?
Si, il y a l'été 36 qui est en post-production aussi. Oui, mais c'est vrai que ça fait un moment que c'est en cours. Et voilà, pour l'instant, l'été 36 qui est encore en post-production.
Merci beaucoup, Roman. Merci, Jeanne, d'avoir été avec nous. On se dit à bientôt, j'espère.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Allez, ne bougez pas, on revient dans quelques instants pour la fin de l'émission avec Enya Barou, qui sera notre invitée pour Fleur Bleue. Et puis Soussou va venir nous rejoindre, on va parler des familles nombreuses. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Lily, on te voit dans mes yeux. Partage un corps pour te petite Maëlle, effacée du décor. Je regrette presque trop tard, pourtant je l'ai décidé. Je t'ai demandé de changer, j'aurais dû te laisser grandir. quand même.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé. Chute on écoute la télé, le talk show radio.
Allez, vous connaissez peut-être la famille Romero dans Famille Nombreuse, La Vie en XXL ou Détox ta maison. Souad Romero vous donne tous les ingrédients pour un grand ménage XXL dans votre maison avec son livre, plus de 300 conseils et astuces de Soussou qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, Souad. Alors, c'est vrai que ce livre, c'est un cadeau idéal si vous connaissez quelqu'un d'un peu désorganisé ou qui est un peu, on va dire, pas à cheval sur le ménage. Hein, faut se l'avouer quand même.
Non, mais c'est surtout un bon livre et une bonne idée cadeau pour toutes les personnes qui aimeraient faciliter leur quotidien et faire le ménage plus facilement. Parce que dedans, il y a des astuces. Alors, c'est pour les hommes, les femmes et puis les enfants aussi pour leur apprendre un petit peu à gérer le quotidien et à ce que le ménage, c'est facile, mais beaucoup le complique.
Oui, parce que c'est ça en fait, hein. L'idée c'est vraiment de ton livre, Souad, c'est vraiment de rendre le ménage accessible, de donner des astuces pour que les gens ne passent pas leur temps et leur vie à faire le ménage. Il faut que le ménage voilà, soit quelque chose d'agréable et là avec ce livre-là, il y a plein d'astuces pour ça.
Ah ben c'est ça, c'est qu'en fait j'ai regroupé toutes les astuces de ménage, que ce soit fonctionnel, que ce soit rapide, efficace, qu'on soit organisé en même temps. Tout est relié, vous avez 300 conseils et astuces pour que le ménage devienne facile. Et en plus, je vais vous faire aimer le ménage. Vous allez kiffer faire le ménage. Sérieux.
Comment t'as fait pour trouver toutes ces astuces quand on est en plus parent de famille nombreuse?
Alors, comment j'ai fait? C'est surtout que je suis expert ménage et que ça fait 25 ans que je fais de métier. Faut dire que ce livre, c'est très gratifiant, mais c'est aussi pour moi quelque chose d'humainement sentimental. Grâce à Valérie et à Véronique et Isabelle, les personnes qui m'ont accompagné pour que le livre voit le jour. Mais c'est qu'en fait, je cherchais aussi des idées de recettes ou des astuces pratiques, parce que je travaille quand même dans des grandes maisons d'exception, que ce soit facile d'une manière écologique aussi, économique, parce qu'on peut faire des économies avec le grand ménage XXL. Mais c'est surtout que le quotidien de tout le monde me dit ah, j'en ai marre de faire le ménage. Et ben là, avec ce livre, vous allez pouvoir faire le ménage et en plus l'aimer.
Ouais, mais t'expliques aussi surtout comment le faire de façon un peu biologique aussi par un moment et comment faire des fois ses propres mélanges plus soucieux de l'environnement.
Tout à fait. Alors moi, dans mon livre, vous allez pouvoir retrouver des astuces ménage, des astuces qui vont faciliter, économiques, avec des produits du quotidien bien souvent, comme des tablettes de la vaisselle, de la farine, des choses un peu farfelues, mais des choses anciennes avec lesquelles on travaillait, où on faisait le ménage et qui ne posaient pas de problème, tout simplement. Voilà, donc toutes mes astuces regroupées là-dedans, avec mon expertise et un peu des conseils de pro aussi. Combiné, c'était un bon, je pense, un meilleur cadeau de Noël.
Souad, est-ce qu'on peut dire que Famille Nombreuse, La Vie en XXL a changé ta vie?
Alors, on peut dire que les émissions ont changé mon quotidien, en fait, changé beaucoup de choses. Je continue quand même à travailler un petit peu parce que ça, je peux pas. Mais en même temps, ça m'a permis de découvrir d'autres personnes, regrouper des liens sociaux avec beaucoup de monde.
Ça te touche toujours de voir les gens, justement, te témoigner leur affection, te remercier pour toutes les astuces que tu donnes?
Mais tout à fait, en fait, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Je ne pensais pas avoir un tel engouement, que ce soit pour moi et pour ma famille. Et puis, ben oui, ces émissions, elles ont changé une partie de ma vie.
Je ne pensais pas qu'elles auraient un impact pareil sur les familles.
Moi, en fait, je ne pensais pas qu'il y avait un impact pareil. Simplement, j'habite dans un patelin où c'est qu'il y a 4 ronds-points de feu rouge. Je comprends bien que quand je sors de ma maison, ben, je n'ai pas besoin. On ne me prend pas en photo, enfin, on ne me demande pas une dédicace. Donc là, c'est vrai que c'est tout autre chose. Et je suis très heureuse d'avoir pu fabriquer et faire ce livre avec toutes les personnes qui ont pu m'accompagner, et surtout la maison d'édition Prisma Édition, qui a bien voulu faire mon livre, parce que j'en ai fait des maisons d'édition et elles m'ont tous fermé la porte.
Ah oui, tu vois comme quoi il fallait aller chez Prisma. Effectivement, c'est aux éditions Prisma que vous pouvez vous procurer pour ces fêtes de fin d'année Grand Ménage XXL. 300 conseils et astuces. Est-ce que tu en as encore sous le capot pour éventuellement un tome 2 ou un autre livre qui pourrait donner d'autres astuces?
Alors j'ai surtout créé la Soussou Academy, qui est un centre de formation pour former les professionnels et les particuliers au nettoyage écologique, faire des économies, être efficace et puis réapprendre le métier. Parce que femme de ménage, c'est aussi un métier et on a besoin de formation. Donc c'est quelque chose de simple. Donc il y a ça et puis il y a peut-être une tome 2, qui sait.
Ça, on va Soussou demander. Academy, mais ça demanderait qu'à être télévisé, ça.
Ben, tout à fait.
Donc, Star Academy sur TF1, on pourrait avoir Soussou Academy sur TFX.
Tout à fait, on va demander à TF1.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. On vous le conseille, le livre c'est chez Prisma, Grand Ménage XXL, Soad Romero, que vous connaissez évidemment, experte du ménage, et que vous avez adoré certainement dans Famille Nombreuse, et que vous suivez dans Détox Ta Maison sur TFX. Merci Soussou, à bientôt.
À vous aussi.
Du lundi au vendredi, rendez-vous avec les Familles Nombreuses et leurs aventures XXL.
La réalité, c'est Famille Nombreuse, ça part dans tous les sens.
On déménage, on se marie, on attend un heureux événement ou plusieurs.
Des quadruplés. Le gros choc, ça va être un très très grand chamboulement dans nos vies.
Oh. Il y a de nouveaux départs dans l'air.
C'est un nouveau chapitre de notre vie.
Et des familles nouvelles venues avec des histoires plutôt insolites.
D'être à leur mariage, ça ne me replonge pas. Quelques années en arrière, en train de dire oui à Greg.
Inédit, les familles nombreuses et leur vie XXL, c'est du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1.
Allez, on va parler de la fiction courte Fleur Bleue, fiction d'Enya Barou qui est là avec nous. Et bonjour Enya, merci d'être là.
Merci beaucoup. Je rectifie, c'est une fiction d'Enya Barou et Martin Darondeau.
Oui, mais attends, j'allais le dire, justement, bah oui. Et Martin Darondeau, il est là aussi.
Bonjour, salut.
Je commence toujours par les filles, moi.
Ah, c'est vrai.
Bah, bien sûr. T'as bien.
Merci d'être là. Quand j'ai vu Fleur Bleue, je dois avouer que, alors, j'ai ri tout seul. Voilà, parce que ça fait du bien, c'est drôle, c'est irrévérencieux, c'est culotté. Et c'est vrai que c'est ce qu'on aime aujourd'hui dans ce genre de fiction courte. Ça va très, très vite. Et on y suit les aventures de ton personnage, Enya, qui essaie de trouver l'amour, mais c'est pas toujours facile, hein, quand même.
Ah, non. Alors, c'est pas simple. Fleur, elle essaye de trouver l'amour, mais elle n'est confrontée qu'à des plans d'un soir très très foireux, des gens vraiment qui ne lui correspondent pas et puis qui représentent tous un peu une thématique de société, que ce soit l'écologie, le féminisme, les règles, la religion. Voilà, on a essayé d'un peu survoler toutes les thématiques qui nous érirent nous et qui peuvent apparaître dans nos vies intimes, dans les manières dont on rencontre des gens aujourd'hui. Voilà, c'est des sujets qui reviennent beaucoup. Voilà.
Martin, ouais. Duo indissociable, hein, les deux. Hein. Après, on ira. Là, c'est le binôme. Hein.
Ouais, exactement. Bah, c'est Eric et Ramzy, voilà.
On a Martin et Enya.
On se connaît depuis longtemps avec Enya. On était ensemble à l'école de cinéma à l'ESRA. Et donc, bah, ça fait, ouais, plus de 15 ans, qu'on se connaît. Et on a commencé par faire un court-métrage ensemble en 2018. Et voilà. Et j'ai coécrit le film d'Enya et Fleur Bleue et la suite. Et voilà. Et plein de trucs qui vont venir. Et c'est chouette d'avoir une confiance comme ça avec quelqu'un avec qui tu travailles. Parce que du coup, t'as des références communes, t'as des automatismes hyper agréables. C'est très chouette à faire.
Alors, c'est disponible sur YouTube, sur ma canal aussi, bien sûr. On y a combien d'épisodes là pour l'instant, Enya?
Là, du coup, entre saison 1 et saison 2, nous sommes à 20 épisodes de Fleur Bleue. Voilà, 20 épisodes, tous très différents les uns des autres.
Moi, j'ai été épaté par le nombre de guests que tu ramènes dans cette série, mais vraiment que tu arrives à avoir pour un épisode, pour 2 minutes comme ça. Pablo Poli, enfin, il y en a tout plein, c'est incroyable.
Oui, bah, on avait vraiment une envie, c'était un peu le prétexte Fleur Bleue à aller chercher des gens avec qui on rêve de travailler, qu'on admire, qu'on aime bien, qui nous font rire. Donc, on est allé chercher plein de gens. Et on en a eu plein qui nous ont fait confiance, qui sont venus tourner avec nous. Donc on tourne deux sketchs par jour. Donc ceux qui viennent une demi-journée ou une demi-journée quoi, tourner leur sketch. Et donc c'est une marque de confiance de la part de ces acteurs et actrices d'être venus dans ce programme, surtout ceux de la saison 1, parce que ceux de la saison 2 on leur dit merci aussi, mais ils avaient un peu plus d'informations sur ce que ça allait donner. La saison 1, ils nous ont vraiment fait confiance sur le papier quoi. Donc on leur dit merci.
Il y a déjà des épisodes cultes, hein. Martin, quels sont pour toi les épisodes cultes de la série? Et où c'est que vous puisez l'inspiration tous les deux? Est-ce que c'est au détour de discussion avec les amis, avec la famille?
Alors les épisodes cultes, je sais pas, j'ai un peu moi mes épisodes chouchou, ouais, c'est sûr, mais j'aime beaucoup l'épisode de l'homme déconstruit dans la saison 1, joué par Paul Deby, et j'aime beaucoup l'épisode de la saison 2 sur les règles avec Arthur Mazet, mais enfin voilà, je les aime tous pour une raison un peu différente. Et pour ce qui est de l'inspiration, avec Kenya, on s'est toujours, et Queenie Tassel avec qui on coécrit, on s'est toujours dit, il faut que chaque épisode raconte quelque chose de la société. Donc il faut qu'on s'inspire de ce qui se passe dans le monde qui nous entoure, et notre inspiration, bah elle vient de là en fait, et de se dire bah tiens, la déconstruction est un phénomène de société, il faut qu'on en parle. Le sexe et la religion, c'est quelque chose dont il faut parler. L'éco-anxiété, l'extrême droite, voilà, et on développe comme ça les thèmes.
Pour toi, est-ce que t'as des sketchs chouchou pour le coup, Enya?
Ah oui. Moi, saison 1, mon sketch chouchou, c'est disons Paul Deby qui revient toujours, c'est le mec déconstruit, parce que c'est une thématique qui me fait hurler de rire et qui me tient beaucoup à cœur, parce que je passe ma vie à lire des livres féministes, à essayer de parler de féminisme, voilà. Donc je trouve que l'idée d'un mec qui est un faux féministe, ça me fait vraiment rire. Et ensuite, dans la saison 2, c'est le mec intense. Younes a amené quelque chose à ce rôle qu'on n'avait pas spécialement attendu. Enfin, on l'avait écrit d'une certaine manière et il a vraiment amené une dimension autre à ce personnage qui l'a rendu hilarant, et j'adore cet épisode. Voilà, et puis après il y a l'épisode avec le flashback de quand on voit Fleur adolescente, que je trouve que j'aime.
Oui, dis donc, je l'ai reconnue, hein, la petite qui joue dedans.
Juliette Gasquet, qui est l'actrice qui joue dans On ira, dans mon film, ouais, que j'aime d'amour et que je trouve génial dans ce sketch, qui est un sketch un peu plus émouvant et tendre, moins dans la comédie pure que les autres. Mais voilà, oui, bien sûr, j'ai des sketchs préférés. Ouais.
La saison 3 est en préparation ou pas? Est-ce que vous avez envie, en tout cas?
Non, rien n'est en préparation. On a évidemment, on n'a pas envie de laisser le personnage de Fleur là où il en est. C'est-à-dire qu'on on a fini cette saison 2 en bouclant, en mettant un point à ça, mais on a envie de l'amener autre part et on est en réflexion.
Alors justement, tu m'offres une transition quasiment parfaite, puisque maintenant Enya, on sait qu'elle sait réaliser des films brillants. Avec On ira, que vous pouvez d'ailleurs attraper en DVD VOD puisque c'est sa deuxième vie qui est commencée maintenant, avec une Hélène Vincent au top de son art, avec franchement un casting absolument dingue autour de toi, franchement Enya. Maintenant, ça serait bien peut-être de mettre Fleur sur grand écran, ça pourrait être sympa.
Ah bah ce serait génial, on adorerait de toute façon Fleur sur grand, petit écran. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aimerait mettre Fleur dans un format qui permet d'en apprendre beaucoup plus sur elle et de la faire évoluer en dehors de sa chambre, par exemple. Ça serait vraiment un kiff. Donc après, que ce soit du film, de la série, on sait pas encore.
Fleur bleue dans un club de vacances, moi je verrais bien
voilà,
ça.
Par exemple, voilà. Mais ce qui est sûr,
des rencontres improbables.
Ce qui est sûr, c'est que on a un univers à traiter avec Fleur qui est pas infini, mais en tout cas, il y a encore pas mal de choses à traiter et Fleur est un personnage qui évolue avec moi, avec nous. Elle avait 30 ans dans la saison 1, elle en avait 31 dans la saison 2, et si on la retrouve un jour, elle aura grandi, elle aura d'autres problématiques de son âge, et voilà, et donc oui, j'espère, on va voir.
Les projets à côté de tout ça.
Alors, avec Martin, on est en train d'écrire mon deuxième long métrage, qui sera donc coécrit avec Martin Darondo et Philippe Barrière, qui sont mes deux auteurs favoris, qui ont écrit mon film On ira avec moi.
Déjà savoir le thème, ou c'est pour l'instant un peu top secret?
C'est un peu top secret pour l'instant, mais voilà, ce sera de la comédie, ce sera drôle et émouvant, je l'espère, et puis voilà, ça devrait arriver assez vite normalement.
C'est sur la même lignée qu'On ira, on devrait passer un bon moment, Martin.
Et moi, les projets, moi je viens de réaliser mon premier long métrage. Que j'ai co-réalisé avec Bertrand Huskla, qui est un film autour de la comédie française, avec Pauline Clément en rôle principal. Et on est en montage en ce moment, on est très contents d'avoir fait ce projet un peu fou qui s'est tourné hyper vite, et le film devrait sortir courant 2026.
Ça sera l'occasion de revenir en tout cas avec grand plaisir. En attendant, vous pouvez découvrir Fleur Bleue, c'est sur YouTube, sur MyCanal. Et puis on va en écouter un extrait, rien que pour le plaisir, des oreilles, vous allez voir, ça déménage. Merci Enya, merci Martin.
Merci à vous, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ah, c'est la vie à deux, hein. C'est pas facile.
Ah non, justement, je sais pas. Quand je ramène quelqu'un chez moi, au début, ça se passe bien. Et puis je me rends compte que ça va pas le faire entre nous et la situation devient gênante.
T'as une capote?
T'inquiète, je suis clean.
T'es mariée?
Quoi, ça c'est mon intimité? Putain, j'ai le droit à une intimité quand même, merde!
Peut-être que c'est toi qui es louche.
Moi?
Attends, reste, j'ai envie de faire l'amour, reste!
Oh!
Oh, pardon.
Bah là, mais personne va jamais me croire, là.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain, eh bien, nous parlerons de Monsieur Parisot qui fait son grand retour sur TF1 avec Patrick Parou et Xavier Lemaître qui seront nos invités. Et puis, ça sera également une spéciale mauvaise pioche, ou plutôt de bonne pioche pour nous. Gérard Jugnot sera notre invité exceptionnel.
Le rendez-vous des stars, C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Hey, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chut, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chut, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands, Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.